Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite évidemment une très bonne année 2020, une très bonne santé surtout, hein, parce que forcément quand on fait Objectif Santé, on pense à votre santé. Et on pense parfois aussi à vous faire maigrir, peut-être mincir durablement. C'est le cas de notre invité aujourd'hui, le docteur Réginald Allouche, vous présente son livre « La méthode hépato-détox », un livre paru chez Albin Michel. Alors, savez-vous que le foie peut être aussi votre allié minceur? On va essayer de le comprendre. Bonjour, docteur Réginald Allouche.
Bonjour.
Merci d'être venu dans
Merci
Objectif
de m'avoir
Santé.
Invité.
Alors, déjà pour vous présenter, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur biomédical. Mmh. Et vous êtes chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. C'est d'ailleurs votre spécialité, le diabète, hein, toutes les formes de diabète.
Oui, et la prévention du diabète.
Et la prévention du diabète, parce que ce qui est très important, et on le lit à travers votre livre, et même quand on vous suit un petit peu dans la presse, ça montre en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du positif, et c'est pour ça qu'on parle d'objectif santé ici, c'est que ce n'est pas forcément une fatalité. Bien sûr, quand on parle du diabète de type 2, et on va bien sûr
on va définir
avec vous. On peut d'emblée dire à nos auditeurs et auditrices, ces trois formes de diabète dont vous parlez souvent, docteur Réginald.
Alors vous avez plusieurs types de diabète. Vous avez le diabète de type 1, qui est une maladie qui touche en général les adolescents, les enfants, les bébés. Ouais. En fait, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que à la suite d'une infection ou d'un choc affectif, l'organisme va faire des anticorps contre son propre pancréas, détruire son pancréas, comme il n'y a plus de pancréas actif, en tout cas pour la partie dite endocrine, c'est-à-dire qui sécrète l'insuline. Eh bien, le traitement, c'est des traitements à l'insuline.
On se pique à l'insuline. Pourquoi ça arrive dans ces jeunes âges, justement, de l'enfance, de l'adolescence, et voire de, voilà, presque autour de 20-25 ans?
Alors, tout simplement parce que les maladies auto-immunes sont plutôt des maladies qui se déclarent chez les enfants et chez les jeunes adultes, voire aussi chez les bébés. Après, il y a la probabilité diminue. Elle est toujours importante, hein, puisqu'il y a des maladies auto-immunes qui se déclarent à l'âge adulte, mais celle-ci se déclare jeune. Et donc, le diabète de type 1, c'est à peu près 10% du nombre de diabétiques. Il y a un deuxième diabète qui commence à augmenter un petit peu, c'est le diabète de grossesse. Oui. C'est-à-dire qu'une femme est enceinte et puis à partir du troisième mois, elle va commencer à avoir des troubles de sa glycémie et elle va avoir une glycémie qui augmente.
Avec
une petite piqûre une prise de sang qui est obligatoire en ce qui concerne les femmes enceintes. Et là, on s'aperçoit qu'elle a un diabète de grossesse. Alors, il y a des niveaux, bien entendu. La plupart sont des niveaux très, très bénins. D'autres niveaux nécessitent parfois même des traitements.
Est-ce qu'il y a un profil de certaines femmes enceintes? Est-ce qu'elles avaient déjà un surpoids avant?
En général, le diabète s'accompagne. Je ne parle pas du diabète de type 1.
Mais non, on parle du diabète de la femme enceinte.
Il y a effectivement une prévalence plus forte chez les femmes qui ont déjà du surpoids.
Ça n'empêche pas qu'on fait l'analyse chez des personnes qui sont très minces.
Tout à fait. La minceur n'est pas une garantie. Mmh. En tout cas, elle protège, mais ça n'est pas une garantie. Et donc, on a ce diabète de grossesse qui, la bonne nouvelle, se résout après la grossesse, à l'accouchement. Mmh. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'enfant n'a pas de diabète. C'est pas quelque chose
qui est transmissible.
Voilà, donc je rassure les auditeurs et surtout les auditrices. Et puis, par contre, une femme enceinte qui a fait un diabète de grossesse a entre 25 et 50% de risque de faire un vrai diabète dit de type 2, celui dont on va parler et qui nous intéresse aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après. Donc en fait, ça veut dire une surveillance annuelle pour les femmes enceintes qui ont fait un diabète, parce que 45 ans, 50 ans, elles peuvent déclarer un diabète de type 2. Et donc, le diabète, la vedette absolue, c'est le diabète de type 2.
Celui dont on parle et qui finalement augmente, vous parlez même d'endémie.
Ah oui, c'est une véritable endémie, elle n'est pas contrôlable, elle n'est pas contrôlée, tout simplement parce que nous avons un corps qui est fait pour stocker et pour résister aux famines, et depuis pratiquement 80 ans maintenant, on est devant une abondance de nourriture, et notre corps n'est pas fait pour ça. Notre corps, il est fait pour jeûner de temps en temps, pour se gaver de temps en temps, pour faire beaucoup d'exercices. Il n'est pas fait pour rester derrière un bureau avec un écran, manger tout le temps, et puis pas faire de sport. Et donc, le diabète, c'est une maladie. Alors, je vais être un peu provocateur. Est-ce que c'est vraiment une maladie? Parce que quand vous regardez un diabétique de type 2, donc qui constitue 90% de l'ensemble des diabètes, je rappelle qu'en France, ça touche entre 3,5 millions et 4 millions de personnes, au fond, c'est la maladie du trop. Ouais. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire trop de ceci,
trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool,
pas assez d'exercice. Au fond, tout marche. Hein. Chez un diabétique, il y a toujours de l'insuline. Chez un diabétique, il y a d'ailleurs quelqu'un qui prend du poids ou qui est obèse, il chauffe beaucoup parce qu'il doit brûler toutes ses calories. En fait, mais l'organisme est débordé par les apports sans qu'il y ait de dépenses. Hein. En gros, et c'est pas équilibré, les apports dépassent les dépenses. Et comme on est dans une société de consommation extrêmement bien huilée et que les publicitaires ont parfaitement compris comment nous fonctionnions, eh bien, ils nous font manger des choses dont on n'a pas besoin.
C'est pas en train de s'inverser aujourd'hui ?
Alors écoutez, c'est en train de s'inverser dans une certaine catégorie de la population, parce qu'il faut bien dire que bien manger aujourd'hui, ça coûte cher. Mal manger, ça coûte pas cher.
Donc, même beaucoup manger et mal manger, enfin beaucoup mal manger, ça coûte pas cher.
Ça coûte pas cher, et d'ailleurs, malheureusement, c'est quand vous regardez les catégories socio-professionnelles, ce sont les gens qui ont le moins d'argent qui, malheureusement, ont les plus de problèmes de poids.
Est-ce que c'est aussi une question d'informer, d'informations qui passent moins bien ou pas ?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question d'éducation. C'est un point, vous avez raison d'insister là-dessus. C'est que quand vous regardez le nombre de publicités que vous avez un mercredi après-midi à l'attention des enfants, vous regardez toutes ces friandises, ces gâteaux, ces bonbons, ces machins, ces trucs, qui font que d'ailleurs, si un enfant n'a pas ce petit gâteau-là, il passe presque pour un ringard. Hein. Si vous amenez un gamin...
Une
pomme ou une banane, ou même vous prenez un petit bout de baguette tradition, vous mettez du chocolat noir dedans, vraiment ça fait pauvre quoi, ça fait pauvre gens quoi, ça fait les gens qui peuvent même pas se payer un pain au chocolat. Alors que le pain au chocolat c'est gras et sucré, alors que le petit pain que vous avez préparé avec amour, ça coûte pas cher, ça coûte rien, et en fait c'est beaucoup moins gras et sucré qu'un pain au chocolat. Mais c'est comme ça, donc aujourd'hui c'est l'offre qui régule la demande.
Justement, si on peut s'arrêter sur le pain plus chocolat et le pain au chocolat, la différence, pour bien faire comprendre aux auditeurs, qu'est-ce qui se passe dans un morceau de baguette avec son morceau de chocolat, pourquoi c'est beaucoup moins délétère qu'un un croissant ou un pain au chocolat qui est passé, où il y a eu plein de beurre, j'imagine, qui est passé au
four.
Quel est le problème, en fait, dans l'aliment lui-même ?
Si vous voulez réussir une petite bombe calorique, hein, c'est comme une bombe, vous savez, les bombes d'habitude, on met du salpêtre, et là, vous mettez du gras et du sucre. C'est le gras et le sucre. Vous savez, souvent on dit, moi je suis un pourfendeur du sucre. Bon, maintenant c'est pas la peine de.
On va en parler dans votre méthode.
Mais on n'a jamais vu, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'addiction au sucre, on n'a jamais vu quelqu'un se lever à 2h du matin pour prendre 3 petites cuillères de sucre en poudre.
Ouais.
Parce que l'addiction au sucre, elle n'est pas liée au sucre, à l'ingrédient lui-même, elle est liée à une forme hédonique du sucre, c'est-à-dire c'est un petit gâteau. Qu'est-ce que c'est un petit gâteau ? C'est du gras et du sucre. Donc, pour répondre à votre question, quelle est la différence entre la baguette tradition, le petit bout de baguette tradition avec la petite barrette de chocolat qu'on a du mal à retrouver ?
Qu'on avait, moi j'avais ça dans mon enfance,
à
l'école.
Les barrettes de chocolat jaune, la Suchard, sans faire de pub, on s'en fiche. Noir, c'est pas ça, vous ne les trouvez plus dans les boulangeries. Il n'y en a plus. On vous vend la tablette. D'accord ? Donc, ça, on rentrait ça dans le truc, c'était
Il y avait la bonne dose.
Oui, parce que qu'est-ce qui se passe chez l'enfant ? Un enfant à 13 ans, 12 ans, 14 ans, il a faim au goûter. Il a vraiment faim. Il a une sensation que, Karine, vous et moi, on n'a plus depuis longtemps, malheureusement. C'est cette sensation, il faut qu'on mange. Ouais. Et comme nos enfants ont du pouvoir d'achat, ils ont un peu de sous, et qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Ils vont acheter des chips, ils vont acheter des gâteaux, ils vont acheter des machins, donc du gras. Et c'est le gras et le sucre. Donc, je reviens à la comparaison.
Bah oui.
La baguette tradition, c'est une farine particulière.
Alors, vous avez dit tradition, parce que c'est important de s'arrêter là.
Très important.
C'est vrai qu'elle est... C'est une baguette, on ne sait pas pourquoi cette farine en particulier est très intéressante.
Alors, elle est très intéressante, c'est très simple. Ouais. C'est que c'est l'alliance, je dirais la bonne alliance, entre la réglementation et les meuniers. C'est-à-dire, les meuniers ont travaillé sur les index glycémiques, c'est-à-dire l'impact du taux de sucre d'un pain, et ils ont classé leur farine, avec un taux de cendre. Il y a un très bon site de la boulangerie, du syndicat de la boulangerie, je vous invite à aller le voir, il y a tous les chiffres, très bien répertorié. Et puis la réglementation, qui dit que pour qu'une baguette s'appelle tradition, il faut qu'elle utilise une farine tradition agréée et qu'elle n'ait aucun ajout.
Un ajout en gluten, par exemple ?
Alors, par exemple, parce que chez les boulangers, le gluten ne s'appelle pas le gluten. Depuis le décret de 79, tous les gens qui font de la pâtisserie et de la boulangerie peuvent mettre des adjuvants et ce qu'on appelle des améliorants.
D'accord.
En fait, l'améliorant, ça permet au boulanger de se lever un peu plus tard. Vous savez, moi je suis d'une génération où les boulangers à 3h du matin...
Ouais. Vous pouvez avoir... monter, en fait, monter sa pâte, il faut se lever plus tôt. Quoi.
Exactement. Ouais. Et maintenant, grâce au gluten, quand vous mettez du gluten, eh bien à ce moment-là, vous allez améliorer la plasticité de la pâte et sa capacité à être conservée et à être congelée.
D'accord.
Donc vous pouvez ensuite prendre des pâtons qui ont levé dans la journée, vous pouvez les congeler, les mettre et puis les travailler. Donc en fait, on a aujourd'hui, pourquoi la tradition est intéressante ? Parce que par exemple, la tradition ne peut pas être issue de pâtons surgelés et ni d'avoir d'améliorant. C'est pour ça que je la recommande beaucoup dans
mes livres. Oui, mais beaucoup de nutritionnistes aujourd'hui la recommandent.
Voilà, les gens disent le pain, pendant des années, les nutritionnistes ont dit le pain complet. Mais le pain complet, il est très riche, il est beaucoup plus riche en gluten. Et alors le gluten...
Et puis on peut en prendre moins parce qu'il est très lourd, le pain complet. En fait.
Bah oui, le pain complet est très lourd, mais il est très riche en gluten. Donc en fait, il vaut mieux manger de la baguette tradition avec parcimonie, hein, c'est pas la peine non plus de manger une baguette par jour. Le pain, il faut pas l'interdire, c'est très bon adjuvant. Mais je rappelle qu'avant, on mangeait du pain parce que les gens n'avaient pas assez d'argent pour avoir des protéines.
Il fallait se rassasier,
et donc en général, c'était le bol de soupe et le pain. Aujourd'hui, on mange le pain avec les frites. Hein. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a gardé des habitudes alimentaires qui ne correspondent plus à nos besoins, puisqu'en plus, on brûle beaucoup moins. Donc, le pain au chocolat, pour le terminer, lui, c'est une pâte, pas feuilletée, mais c'est une pâte de brioche, avec, donc, dans lequel il y a du beurre, dans les meilleurs cas, ça peut être aussi de l'huile de palme. Et donc, vous avez l'alliance terrible entre le gras et le sucre. Et c'est cette alliance-là qui fait qu'on prend du poids. C'est pas le sucre tout seul ou le gras tout seul.
Alors, non seulement on prend du poids, parce que là, vous parlez dans votre livre de la méthode hépato-détox, et dans hépato-détox, il y a hépato, donc il y a le foie. On parle beaucoup de cette NASH.
Oui.
Et justement, est-ce que c'est un mot anglais, mais...
Oui, je vais le définir rapidement. En fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que tout le monde est persuadé que le diabète de type 1, donc celui à l'insuline, c'est vraiment un problème de la maladie du pancréas, d'un pancréas détruit ou pas adapté. Le diabète de type 2, ça n'a rien à voir avec le pancréas. Le pancréas, en général, fonctionne assez bien, jusqu'au moment où, bien entendu, lui aussi, il est touché par la maladie.
D'ailleurs, le traitement n'est pas le même,
en fait. Ah, le traitement n'a rien à voir, parce que dans un cas, on injecte de l'insuline, en sous-cutané, l'autre cas, on prend des médicaments, Dans l'autre cas, le premier traitement du diabète de type 2, c'est un régime et de l'exercice physique. Hein, la conférence de consensus,
mais
c'est avant traitement.
Docteur Réginald Allouche, ça c'est pour éviter de rentrer dans un diabète totalement installé.
Voilà, alors il faut savoir que avant le diabète de type 2 installé, vous avez ce qu'on appelle la période de pré-diabète. Alors pour les auditeurs, un diabète installé, c'est lorsqu'on a une glycémie à jeun, sucre, glucose, à jeun donc émis dans le sang. Ouais. Donc, glycémie à jeun, c'est le taux de sucre dans le sang. Et donc, ce taux de sucre dans le sang, normalement, il se situe entre 0,75 g de sucre par litre et 1,05 g par litre. Ça, c'est la normalité.
D'accord.
Ensuite, si vous avez deux fois une glycémie à jeun à 15 jours d'intervalle supérieure à 1,26 g, c'est le diabète de type 2.
D'accord.
Et malheureusement, à moins de le faire très, très vite, il est rarement réversible.
D'accord. Donc en fait, quand on est dans une fourchette entre 1,05 et 1,26,
on est dans le prédiabète,
et là on peut intervenir.
Et là on peut intervenir, c'est réversible.
On peut revenir.
On a prouvé aujourd'hui sur des centaines de milliers de gens que si vous perdez 5 à 7% de votre poids et vous pratiquez 150 minutes d'exercice par semaine, peu importe si vous faites 3 fois 50 un peu tous les jours, vous réduisez les risques de devenir diabétique de 57%. C'est énorme.
Énormissime.
Voilà, et on a le temps. Ouais. Parce qu'un diabète, ça met entre 5 à 15 ans pour se constituer. Donc, on a 5 à 15 ans. C'est pour ça qu'on est très ambigu avec le régime. C'est-à-dire que les gens disent « Ouais, le régime, ça sert à rien. » Enfin, ça sert à rien si on devient diabétique de type 2. Ouais. Comme par hasard, d'ailleurs, les gens qui disent ça, si vous avez des patients qui viennent ensuite, qu'est-ce qu'ils vont leur dire ?« Ah bah, il faut faire un régime. » Mais on avait 5 à 10 ans pour le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Pourquoi ? Parce que c'est des consultations très longues qui nécessitent de bien comprendre comment les gens se comportent, comment ils mangent, comment ils fonctionnent.
Donc,
et pour revenir à la NASH, donc en fait, le diabète de type 2, c'est plutôt un problème du foie. Le foie est dépassé parce que c'est lui qui règle la glycémie. C'est lui qui régule la glycémie. C'est lui qui inhibe l'insuline. C'est lui qui traite les graisses. C'est lui qui fait tout ça.
Passe au niveau du foie.
Ah oui, le
notamment
foie,
quand on parle du diabète de type 2, parce qu'on a bien compris le diabète de type 1, c'est la question du pancréas.
Oui.
Et donc ce foie, bon, on va le décrire un peu parce qu'on n'en parle pas tellement. C'est pas forcément l'organe.
Vous savez pourquoi on n'en parle pas ?
Non.
Parce qu'il fait pas mal.
Oui, c'est.
Parce qu'il n'a pas de terminaison nerveuse sensitive. Il y en a juste au-dessus, sur la coque qui le protège, la membrane qui le protège. Donc, comme on n'a jamais mal au foie, on ne s'en occupe pas. Et pourtant, il traite à peu près, le, votre cœur va traiter, va pomper 4 litres et demi de sang par minute. Mmh. Votre foie, il va avoir 1 litre et demi de ce sang qui va le traverser, mais lui, il ne fait pas qu'une pompe. Le cœur, c'est une pompe. Okay. Le foie, c'est une usine chimique. Il va tout faire. Il va vous enlever les toxines, il va s'occuper de l'alcool et il va s'occuper du sucre.
Et il fabrique énormément de choses, le foie. Donc, il fabrique, c'est une usine, comme
c'est
vous dites.
C'est une véritable usine.
C'est une usine qui est fondamentale pour l'organisme.
On ne peut pas vivre sans foie. Et d'ailleurs, c'est tellement important que la nature ou notre créateur, ça dépendra de nos auditeurs, a décidé de faire que notre foie est énorme par rapport à notre corps. C'est le plus gros organe de l'organisme. On peut vivre avec un tiers de son foie. D'ailleurs, quand on fait des greffes aujourd'hui, quand on prend un greffon, on greffe un tiers du foie. On n'a pas besoin de plus. C'est un organe fondamental qui fait tellement de choses que sans passer... De toute façon, sans foie, l'espérance de vie est inférieure à un an. Voilà. Donc la NASH, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie qui arrive.
C'est la maladie moderne.
Alors NASH, qu'est-ce que ça veut dire? NASH, c'est non-alcoolique, non-alcoolique A, stéatose hépatique.
En gros, c'est une cirrhose sans avoir bu de l'alcool.
C'est pas une cirrhose.
Stéatose,
ça veut dire que c'est le farcissement. Pour les cuisiniers et les cuisinières, ils comprennent ce que ça veut dire. On farcit avec du gras, un foie. D'ailleurs, le foie gras, qu'est-ce que c'est? On prend des oies et on les gave avec quoi? Avec du maïs. Qu'est-ce que c'est le maïs? C'est du sucre et du gras. Donc, c'est du fructose avec des graisses oméga-6 qui sont très inflammatoires.
Donc, alors, en fait, c'est comme si on se gavait soi-même.
On faisait son foie gras.
Mais la NASH, c'est se fabriquer un foie gras.
Voilà, exactement. Et alors, le problème du foie gras, la bonne nouvelle, c'est que la NASH est réversible.
Bonne nouvelle parce que parfois, on a l'impression que c'est presque foutu quand on a une NASH et qu'à l'échographie, on va vous dire « Ah, attention, vous avez un foie...
» Un foie gras.
Un foie gras, ça se voit d'ailleurs à l'échographie.
Oui, ça se voit très bien à l'échographie. Et on se dit, c'est fini.
Comment faire? Non,
c'est réversible. La nature est très, très bien faite et c'est totalement réversible.
Alors,
si
c'est
on
réversible
prend les mesures.
Comment?
C'est réversible quand déjà, on utilise moins un sucre qui est particulier, qui est le fructose. Alors, le fructose, c'est le sucre des fruits. C'est très bien quand il est dans les fruits. Quand vous mangez une orange, par exemple, vous allez manger une orange, mais elle va venir avec des fibres, des vitamines, et puis vous allez prendre le temps pour la manger, une orange. Vous ne pouvez pas l'avaler en 2 minutes. Si vous prenez un jus d'orange, vous allez prendre 4 oranges. Donc, alors, un jus d'orange de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, ça ne fera pas une NASH. Mais tous les jours, eh bien, ça pose des problèmes parce que le foie, quand il voit arriver le fructose, ça lui demande autant de travail qu'à l'alcool. Et quand il traite... Quand il désamorce l'alcool ou il s'occupe de métaboliser le fructose, et ben il fait pas autre chose et il met le gras de côté et il stocke de côté et c'est comme ça qu'il devient gras. Donc ce qu'il faut, c'est vrai avec le fructose parce que le fructose c'est vraiment le sucre qui pose un problème enzymatique au foie, mais c'est vrai aussi avec le sucre en poudre. Le sucre en poudre, qu'est-ce que c'est? C'est du saccharose. Ouais. Le saccharose, c'est fructose plus glucose. Alors, vous en avez 2 fois moins de fructose, mais vous avez quand même un impact. Donc, en fait, il ne faut pas interdire le sucre parce que c'est très, très dur. Vous savez, en ce moment, il y a des régimes très à la mode qui s'appellent les régimes cétogènes. C'est vrai que ça marche. Pas de problème. De toute façon, tous les régimes marchent.
Protéinés, en fait.
Mais tous les régimes marchent.
À partir du moment où on diminue la quantité...
La quantité, mais il ne faut pas... trop non plus diminuer le nombre de calories. Pourquoi? Parce que si vous avez un régime qui est trop restrictif en calories, vous ne pouvez pas faire d'exercice. Et donc, le seul endroit où on brûle efficacement les calories,
mais d'ailleurs,
c'est le
pendant très longtemps, certains préconisateurs de certains régimes, notamment hyperprotéinés, vous disaient, attention, ne faites pas de sport en même temps.
Ah, parce que vous pouvez tomber dans les pommes.
Et on ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais là, la réponse, elle est là. Oui. Si on n'a pas d'apport suffisant de sucre, on n'a pas cette énergie potentielle.
Alors, c'est peut-être pas de sucre, mais en tout cas, de sucre qui ont un index glycémique bas.
Oui.
Parce qu'en fait, tous les sucres ne se valent pas.
Des sucres utiles.
Voilà. Si je prends un sac de bonbons, eh ben, ça n'a pas le même impact que si je mange un bol de lentilles. Parce que dans les lentilles... Le sucre, il est organisé en structures qu'on appelle l'amylose et l'amylopectine. C'est une structure d'amidon, mais qui est particulière. Et d'ailleurs, il vaut mieux manger de l'amylose, des légumineuses riches en amylose, que des pommes de terre riches en amylopectine. Parce que l'amylopectine, ça se mange tout seul, alors que l'amylose, ça demande du travail à votre métabolisme.
Donc, une énergie dépensée.
Voilà.
Et du temps. Et des calories en moins.
Et du temps. Donc, quand vous comprenez bien que quand vous avez du temps, votre foie, il a du temps pour travailler. Ça va se lisser. Alors que si vous lui envoyez une sacrée dose de sucre comme ça, bah, il arrête tout. Il s'occupe du sucre parce que c'est lui qui régule la glycémie. C'est lui qui régule la glycémie et c'est lui qui a les réserves.
Lui, c'est le foie.
Le foie, oui.
On parle de du foie.
C'est la star d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment un organe qui gagne à être connu. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire découvrir dans mon livre. C'est qu'au fond, faites ce que vous voulez comme régime. Faites comme vous voulez, mais respectez votre foie. Et prenez plutôt un régime qui respecte votre foie, parce que votre foie, c'est lui qui gère aussi les pesticides, hein. C'est lui qui gère les toxiques, c'est lui qui gère les médicaments, c'est lui qui gère. Donc au fond, si vous lui chargez trop la mule, à un moment, il va privilégier certains travaux et mettre le reste de côté. Et c'est là où il va s'empoisonner.
Voilà. Donc ensuite, c'est pour ça qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être émergentes.
Dont la NASH. Dont la NASH, qui est la vraie fille de la surconsommation et de l'uniformisation de notre alimentation. Elle est très stéréotypée maintenant, notre alimentation. Vous remarquerez peut-être même, quand vous rentrez aujourd'hui dans les supérettes, en ville, puisque vous savez qu'en ville, vous ne pouvez pas avoir des supermarchés ou d'hypermarchés, il faut toujours que ça soit en dehors des villes, vous l'avez probablement remarqué par la loi, eh bien vous verrez qu'à l'entrée, au début, il n'y avait que les légumes. Et aujourd'hui, ce n'est plus les légumes. Ce sont des plats préparés, des salades préparées. Les légumes ont été relayés en deuxième partie. Ce qui montre bien qu'on a beau dire « oui, il faut manger ceci, il faut manger cela », la réalité de l'ensemble de la population, ça n'est pas de manger aussi sain qu'on veut bien le dire. Hein, donc en fait, il y a une véritable économie de la nutrition. On ne peut pas disjoindre, si vous voulez, l'économie de santé et notre santé de tout ce qui est financier et circuit de distribution. Aujourd'hui, on a une offre qui est absolument pléthorique. Si nos arrière-grand-mères revenaient aujourd'hui devant un rayon de yaourt, je pense qu'elles se deviendraient folles. Elles ne sauraient vraiment pas à quoi acheter. Et je pense que c'est cette pléthore d'offres qui fait qu'on est tout le temps sollicité.
Pourtant, on n'a pas tendance toujours à acheter les mêmes produits. Je prends mon exemple personnel, je vais dans un supermarché dans lequel j'ai mes habitudes, j'achète quasiment tout le temps la même chose.
Et ben vous avez raison, parce qu'en fait, le meilleur ami du foie, c'est la routine, la bonne
routine.
Je ne
savais pas ça.
Oui, il y a une expérience qui est très intéressante. On a demandé à des étudiants, on leur a mis sous le nez des petits bonbons rouges, je ne citerai pas le nom, hein, voilà. Et des bols entiers. Donc ils ont mangé ad libitum, enfin, comme ils voulaient, ils pouvaient vraiment manger ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont mangé, puis à un moment, ils n'en voulaient plus. Alors, on leur a proposé encore des bols de bonbons, de petits bonbons rouges. Ils ont dit non. Mais on leur a mis après des petits bonbons jaunes. Eh bien, ils ont recommencé à en manger. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment, c'est triste à dire, mais une bonne alimentation, c'est une routine absolue. Comme lorsqu'on était à la cantine dans les années 70, c'était toujours le même menu toutes les semaines, avec le poisson le vendredi.
Même dans certaines familles, c'était ça.
Et de temps en temps, des exceptions. Et on sait que dans notre religion, c'est les exceptions sont les fêtes, parce que les fêtes sont beaucoup, toujours centrées autour des repas. Et c'est des repas de fête. Et donc, je crois que le Shabbat, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on reçoit, on est tous ensemble, on peut manger. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, mais au Shabbat,
on
prend pas de poids. Ça, c'est,
à condition de faire justement le reste de la semaine.
À condition d'avoir une routine dans la semaine et de réserver l'exception à ça. Et je pense même que les sages, qui vivaient il y a plusieurs dizaines de siècles, on fait ça justement comme ça. C'est-à-dire que lier la fête du repas à la fête religieuse, c'est une façon de la magnifier. Et parce qu'avant, ils ne mangeaient pas tous les jours des repas de fête. Aujourd'hui, ce que nous offre l'industrie, c'est d'avoir des repas de fête tous les jours. Nous ne sommes pas faits pour ça. On est faits pour se dépenser. Et vraiment, s'il y a un message que je voulais donner, c'est privilégier une forme de routine agréable. Réfléchissez à ce que vous devez manger. Lisez un livre. Peut-être pas le mien. Lisez ce que vous voulez. Mais réfléchissez. Ouais. Prenez du recul par rapport à ça. Et faites de l'exercice.
Manger intelligemment. C'est-à-dire
pensez ce que vous mangez. Pensez ce que vous mangez. Et préparez-vous en vous disant des séances d'exercice. Vous savez, marcher 15 minutes, se lever, truc, c'est pas... Mais ça fait du bien. Hein. On le sait aujourd'hui d'ailleurs que si par exemple vous êtes assis à votre bureau, eh bien il faut toutes les heures et demie se lever 15 minutes pour pouvoir...
Alors, on sait aussi avec votre livre qu'on a, grâce à cette détox, ce que vous appelez la détox, en tout cas c'est vraiment avoir conscience de son foie, donc ne pas lui envoyer n'importe quoi, ne pas le surcharger d'alimentation, que ça a une action directe aussi sur les marqueurs. C'est-à-dire que d'emblée, on va pouvoir faire une analyse de sang et on va trouver son cholestérol diminué, on va trouver ses triglycérides diminués, etc.
Ses triglycérides diminués. C'est surtout les triglycérides. Le cholestérol, c'est un peu plus ennuyeux. Pourquoi ? Parce que 75% de votre cholestérol est sécrété par votre foie. Le cholestérol de votre alimentation ne représente que 25% du cholestérol total. Mais on le voit surtout sur les triglycérides. Triglycérides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des marqueurs qui permettent de voir comment, combien de sucre vous avez consommé. Parce que paradoxalement, c'est du gras. Mais tout simplement parce que dans tri, il suffit de lire, hein, tri-sucre. Voilà. Donc en fait, le foie, quand il veut stocker du sucre, on ne peut pas stocker du sucre comme ça. Il n'y a qu'une forme de stockage du sucre, c'est le glycogène. Tout le reste, c'est sous forme de graisse. Ce que vous avez dans les adipocytes, les cellules qu'on a autour de l'abdomen, dans les cuisses, sur les bras, ce sont des cellules qui stockent du gras. Mais ce gras, c'est parce que le sucre a été transformé en gras. Donc c'est les triglycérides. Et vous savez, c'est tellement important, le foie. Vous savez comment on les appelle en médecine chinoise? On l'appelle le général. C'est le patron. D'accord? C'est même lui qui a la réserve de sucre pour le cerveau. Parce que les muscles sont très égoïstes. Ils gardent leur sucre pour eux, en interne. La petite réserve qu'ils ont, ils le gardent pour eux. Et c'est le foie, en fait, qui fait toute la régulation.
Alors, bon, le temps avance très vite, hein, c'est normal avec vous, docteur Réginald Allouche, puisque vous êtes un passionné du foie et de comment on gère aussi ce sucre que l'on ingère tout au long de la journée. Et vous proposez, bien sûr, une méthode, on va pas dire de régime, je crois que c'est plus le mot.
Non, c'est pas le mot à la mode. Hein. C'est un comportement alimentaire.
Ouais, mais pourtant, vous proposez une phase d'attaque et une phase de bien-être. Une phase d'attaque, elle est forcément plus difficile parce que vous dites, on va supprimer quasiment tous les sucres.
La phase d'attaque, non, on supprime pas tous les sucres puisqu'il y a des, il y a certains légumes, il y a des fruits. Il y a des yaourts, il y a du dans le fromage blanc, il y a aussi le fromage blanc.
Alors quels sont les sucres qu'on enlève phase d'attaque
Phase d'attaque, en fait, on enlève les sucres issus des féculents, d'accord, et on enlève aussi les fromages.
Ça veut dire pas de pain?
Alors non, le pain le matin.
D'accord.
Le pain, c'est très important le matin parce que la réserve est reconstituée.
C'est le moment de l'énergie.
Oui, parce qu'on est à jeun le matin.
Il faut donner l'énergie pour commencer la journée.
Exactement. Mmh. Et puis, on enlève effectivement, pendant très peu de temps, on enlève les féculents et le fromage. Parce que ce sont vraiment des apporteurs de calories qui ne sont pas nécessaires. On peut garder certaines légumineuses. Mmh. On peut aussi, il y a des fruits qui sont maintenus. Il y a des fromages blancs à 20%. Il y a des yaourts de brebis. Enfin,
est-ce qu'il y a de l'aspartame chez vous, docteur?
Non, moi je ne suis pas, tout simplement parce qu'en fait, pourquoi cette phase d'attaque? Au fond, vous savez, c'est dans la vie, faire 15 jours, 3 semaines de phase d'attaque, c'est totalement anecdotique pour votre organisme. Ce que je veux, en fait, ce que je pousse les gens à faire, c'est à se rendre compte des quantités qu'ils ingèrent tous les jours. On ne se rend pas compte du tout de tout ce qu'on avale dans la journée. Et donc, cette phase, quand on est motivé, c'est aussi une façon de se dire « mais je mangeais tout ça ». Et donc, à ce moment-là...
Souvent, d'ailleurs, quand les personnes sont invitées à écrire ce qu'ils mangent tout au long de la journée, ça permet aussi de se rendre compte que les semaines précédentes, on a mangé des quantités.
Mais c'est un conseil
énorme
que je peux donner aux auditeurs, aux auditrices. Prenez un petit carnet, pendant 48 heures, notez tout, même les verres d'eau. Moi, je le fais avec mes patients. Et vous verrez, c'est hallucinant tout ce qu'on peut avaler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, vous disent « mais docteur, mais je vous assure, je ne mange pas beaucoup ». La réalité, c'est qu'on ne grossit pas par l'air qu'on respire.
Non, c'est pas de hasard.
Il y a un peu le stress qui peut faire 5% parce qu'on fait du cortisol, on fait des corticoïdes, on est très stressé. Mais ce n'est pas ça. Ouais. C'est ce qui est que si on grossit, c'est qu'on mange. Mais il y a aussi cette conscience de ce qu'on mange. Comprenez? Les gens ne sont pas obligatoirement, on me dit souvent, oui, les gens obèses, vous comprenez? Mais attendez, les gens obèses, ils sont raisonnables. Le problème, c'est qu'ils ont d'abord des habitudes alimentaires qui sont issues de l'enfance, souvent. Moi, je vois beaucoup de mères pousser leurs enfants à manger. Pousser, comme si c'était un enjeu entre la mère
de
et
mère
l'enfant.
De mère ou de père? Parce qu'on parle, on
je
incrimine
dis,
les mamans,
mère
là.
Parce que, non, mais je veux pas. Je pense que, si vous voulez, la mère est très importante au début de la vie. Et mange pour faire plaisir à maman, il n'y a rien de pire. Parce qu'après, quand l'enfant est un peu bouboule, on lui dit « mais arrête de manger, tu manges trop ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour faire plaisir? Ça veut dire « n'écoute pas tes signaux d'arrêt ». Et je rassure toutes les mamans, on n'a jamais vu d'enfant se laisser mourir de faim. Jamais, ça n'existe pas. Hein, même dans les enfants un peu psychiatriques malheureusement à la naissance, il n'y a pas ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas la peine. Ils n'ont plus faim. Ce n'est pas grave. Il y a pas de tout, l'organisme a toutes les ressources pour pouvoir compenser.
Alors donc en fait, on limite les sucres, certains, comme vous venez de le dire, on limite l'alcool, le pain, les fromages, les bières, vous dites les aliments fermentés.
Oui, au début parce que les aliments fermentés, qu'est-ce que c'est? C'est des aliments qui sont prédigérés par des bactéries. Donc dès qu'on les avale, ils sont stockés. Et puis, mais ça dure pas très très longtemps.
Oui, mais vous dites la phase d'attaque, c'est toute la durée du poids à perdre.
Oui, il faut enclencher, parce que vous savez pourquoi ?
Quel poids on a ?
Parce qu'il y a un enthousiasme.
Ouais.
Au début, on voit effectivement qu'on perd du poids. La réalité, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la phase 2.
Mm-hmm.
C'est une phase que vous garderez quasiment toute votre vie. Et
la
surtout,
phase bien-être.
Voilà, la phase bien-être et surtout l'exercice physique.
Ouais.
Il n'y a pas de perte de poids réussie s'il n'y a pas augmentation de la capacité à votre organisme à faire de l'exercice et à brûler des calories par cette énergie.
Alors, quel exercice physique ? Ce sera presque les mots de conclusion avec vous, docteur Réginald Dallouche.
Alors, l'exercice physique, c'est d'abord ce qui vous plaît. Et puis, commencer progressivement. Pour des gens qui ont 50 ans, qui n'ont pas fait d'exercice, qui n'ont pas ça dans la culture, il faut commencer doucement. Il ne faut pas se faire mal. Il ne faut pas qu'on se blesse. Parce qu'après, c'est fini, on est dégoûté. Mais c'est la marche nordique, par exemple.
Ouais.
Pas la marche. Parce que là, souvent, des patients me disent « Ah oui, mais je marche beaucoup. » Non, non, la marche, on est optimisé pour la marche. L'homme, il est debout, donc il marche naturellement. Alors, bien entendu, ça
maintient celui qui n'a pas l'habitude
le système lymphatique. Ah oui, celui qui n'a pas l'habitude de marcher, c'est déjà énorme. Mais c'est marche nordique, c'est la musculation.
Ouais.
Ça marche très bien. Surtout, par exemple, les femmes, mon conseil, c'est de muscler le haut. Pas seulement les abdos fessiers, parce que on étire sa cage thoracique, on respire mieux, on a un métabolisme qui est mieux calé. On a aussi la natation qui est la reine absolue, le vélo, la danse, la zumba. Enfin, il y a tellement de choses. Mais bouger, nos urbanistes nous ont mis dans des villes où on a oublié que 70% de notre organisme sont des muscles. C'est comme si vous aviez une entreprise et que 70% de vos employés, vous ne les faites pas travailler.
Ouais.
Eh bien, vous aurez des problèmes sociaux. Parce que très vite, ils vont s'ennuyer et ils vont trouver d'autres raisons pour... voilà. Donc, en fait, on est dans un système où on n'a pas pensé que l'exercice physique était vital. Et j'insiste vraiment. Hein, à la limite, pour
mais
les
il
gens...
il est tellement vital qu'on le sait aujourd'hui avec des études que ça diminue en... avec des pourcentages énormes. Vous avez dit tout à l'heure que 56%, parfois on dit 30, avec une activité physique, c'est 30% de cholestérol en moins, c'est mieux qu'un médicament.
Et surtout, c'est le meilleur anti-âge que nous connaissions. C'est-à-dire que, je vais vous donner et je terminerai là-dessus, on parle souvent des problèmes des troubles neurologiques. Vous avez les artères qui vieillissent avec le temps, d'accord ? Donc votre cerveau, lui, il ne vit que parce qu'il est alimenté en sang et que dans ce sang, il y a de l'oxygène et de l'énergie. Si vous augmentez de temps en temps votre rythme cardiaque, votre cerveau, les artères vont s'ouvrir un peu plus, elles vont retrouver de la plastique, donc vous aurez votre cerveau réalimenté. Qu'est-ce que ça veut dire un cerveau bien alimenté ? Eh bien, vous avez une bonne mémoire, vous avez les idées claires et vous êtes ici et maintenant. Mais si votre cerveau n'est pas alimenté, eh bien, vous aurez les inconvénients de la prise d'âge. Donc, c'est le meilleur anti-âge.
Merci infiniment, docteur Réginald Dallouche, pour votre enthousiasme communicatif. Et j'espère que ça a été le cas avec nos auditeurs et auditrices. En tout cas, pour mieux savoir de quoi il s'agit, quand on parle d'hépato-détox, voici son livre. La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Un livre paru chez Albin Michel. Je vous souhaite à toutes et à tous
Merci.
Une très bonne santé.
Oui, exactement.